la chronique de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, bienvenue dans cette troisième émission consacrée à l'histoire de l'Institut de France et à son fonctionnement. Avec nous, André Damien. André Damien, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous connaissez très bien la maison, si j'ose dire, puisque vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques depuis 1994 et vous êtes président de votre académie pour cette année 2006. Et puis vous avez publié également un livre dans la collection Que sais-je sur l'Institut de France. Alors, dans nos trois émissions jusqu'à présent, nous nous sommes attachés à l'installation de l'Institut. Nous allons ici, cette fois-ci, nous pencher sur les hommes et les femmes qui constituent l'Institut de France. Alors tout d'abord, l'élection. Puis s'il faut élire les membres, pouvez-vous nous expliquer comment cela se passe ?
Alors l'Académie est une chose très importante qui donne une sorte de seconde nature à celui qui est élu et devient titulaire de ce titre prestigieux de membre de l'Institut. Dans la littérature, il y a un très beau texte d'Anatole France que je cite dans le petit livre que vous avez bien voulu citer, un texte de Sylvestre Bonnard, dans le roman « Ses membres de l'Institut », et il explique combien il devient un personnage important parce qu'il est membre de l'Institut. Donc, si vous voulez, l'homme est toujours incertain de savoir ce qu'il est. Et à partir du moment où il est devenu académicien, il est certain d'exister. À défaut d'être quelqu'un, il est devenu quelque chose et c'est déjà rassurant.
Il entre dans l'histoire.
Il entre dans l'histoire et sa mémoire est entretenue. Discours de réception publiés, annuaires, etc., etc. On brave la mort et on devient immortel, puisque c'est le mot dont on use, à tort d'ailleurs, pour désigner les académiciens. Alors, chaque académie a un peu ses règles. Notamment, quand les académies sont divisées en sections, on se présente dans une section, on est élu par toute l'académie, mais un fauteuil qui appartient à une section. Ainsi, vous ne pouvez pas faire entrer un musicien dans la section de gravure de l'Académie des Beaux-Arts. Et voilà. Mais l'élection est quelque chose de difficile parce qu'il faut avoir la moitié plus un des suffrages des membres présents.
Mais alors déjà, il faut se présenter. Alors, il faut envoyer une lettre.
Une lettre manuscrite adressée au secrétaire perpétuel dans laquelle on lui explique qu'on se présente au fauteuil de monsieur Untel, qui vient de décéder. Ensuite, il faut faire des visites. Elles sont interdites par le règlement, mais elles sont souvent indispensables et nécessaires. C'est-à-dire qu'on va voir les académiciens et on essaie de se présenter sous son meilleur jour. Il ne s'agit pas de les contredire, il ne s'agit pas non plus de les flatter. Il ne s'agit pas de leur dire qu'on a lu tous leurs ouvrages. Lorsque le cardinal de Cabrières, qui n'a pas été élu d'ailleurs, était allé voir Anatole France, et il lui avait dit « Monsieur, je dois vous avouer que je n'ai pas lu vos romans. » Eh bien, à la censure venue, et moi, monsieur le cardinal, je n'ai pas lu vos mandements. Vous voyez, ces petites piques qu'on peut s'échanger. Et en fait, l'académicien se présente, le candidat académique se présente à un certain nombre de personnes et essaye ainsi de gagner leur suffrage. Alors, au fur et à mesure que le temps passe, il contracte une maladie assez spéciale qui s'appelle la fièvre verte.
La fièvre verte.
Oui, c'est-à-dire, c'est une sorte d'excitation sur les résultats. On fait des comptes sur ses doigts, on collabore avec des amis en disant « Est-ce que vous croyez que j'aurai la voix d'un tel, d'un tel, d'un tel ?» pour atteindre cette majorité absolue si nécessaire.
Parce qu'un académicien ne peut pas promettre de donner sa voix à un candidat.
Il ne doit pas promettre. En fait, il le promet parfois. Et un académicien disait « Ces candidats sont épouvantables. » Je lui avais promis ma voix et en plus il aurait voulu que je tienne ma promesse. On distingue donc la politesse de la voix.
Donc en fait, il ne faut pas se fier aux apparences.
Jamais.
Jamais faire de pronostics.
Jamais faire de pronostics. On peut toujours se tromper gravement, même dans des élections dites de maréchal, puisque les maréchaux de France se sont présentés et ont été élus. Tous ont été élus au premier tour, mais certains n'avaient pas la totalité des voix. Ce qui est vrai qu'il y avait même des oppositions. Alors, donc, ça prouve que les gens restent très libres dans leur choix. Ces visites sont utiles, même si elles sont interdites, mais arrive le grand jour, le scrutin, et on passe une urne, on met des bulletins, on les dépouille, et c'est là où Victor Hugo, dans Chose vue, dit « Cette urne d'où sortent les cruches ». Il a été élu à la cinquième demande, hein. C'est pas une de ses candidatures.
Il a été élu difficilement.
Élu difficilement. La même chose chez Delacroix,
donc, il a
qui a été élu très très difficilement et qui a profité de son élection à l'Académie pour faire son dictionnaire des beaux-arts qu'il avait envie de faire. Et c'est ainsi qu'on a une œuvre incomparable de Delacroix qui est due à sa présence académique.
Alors, vous parliez des élections des maréchaux. Et est-ce qu'il existe des élections unanimes ?
Ben, j'en connais pas beaucoup, hein. J'en connais pas beaucoup.
Le maréchal Lyautey, par exemple ?
Je ne suis pas certain que Lyautey ait toutes les voix. Je pense que les maréchaux de la guerre de 14, les premiers maréchaux, Foch et Joffre, ont eu à avoir une élection de maréchal, véritablement, avec toutes les voix. Certains prélats ont toutes les voix, mais le cardinal Mathieu, cardinal de Curie, qui avait contre lui un candidat catholique également, a eu une élection, pas difficile, mais enfin une élection qui n'était pas unanime. Hein.
Et alors, il y a des personnes qui ne sont pas du tout entrer à l'Académie.
Ah non, il y en a beaucoup. Alors, il y a ceux qui se présentent et qui ne sont pas élus. À la fin, on tente de décourager ainsi. Marquet a bel air a été élu à sa 7e reprise et il est devenu un académicien célèbre avant d'avoir les ennuis qu'il a eu après la Libération, mais il a été quand même, il était président de la Société des gens de lettres, il a été élu à la 7e fois. Vous avez des personnes qui n'ont pas été élues.
Alors, comme Alphonse Daudet, par
Alphonse
exemple.
Daudet, parce qu'il avait écrit L'Immortel, dans lequel il ridiculisait les académiciens, c'était évidemment
rédhibitoire.
Vous avez ceux qui sont allés à l'Académie Goncourt et qui donc ont renoncé par là même à entrer à l'Académie française. Et puis vous avez un certain nombre de personnages qui ont été blackboulés pour des raisons politiques, pour des raisons religieuses.
Par exemple ?
Eh bien, on a vivement déconseillé à l'abbé Loisy de se présenter. Monseigneur Duchesne a été élu en revanche. Mais vous avez quand même des personnages qui se paraissent à certains un peu sulfureux et pour lesquels on ne vote pas.
Et Marie Curie non plus n'a pas été élue.
Marie Curie était une femme et comme l'Académie à l'époque, oubliant les principes d'avant la Révolution qui admettait les femmes aux Beaux-Arts, a été blackboulée parce qu'elle était une femme. Mais depuis, c'est l'Académie des sciences qui a élu la première secrétaire perpétuelle. Et puis c'est l'Académie des sciences morales et politiques, toujours révolutionnaire, qui a élu avec Madame Bastide la première femme académicienne.
Alors justement, j'allais vous dire, et les femmes dans tout ça, donc effectivement, donc c'est Madame Suzanne Bastide qui était, oui, qui est entrée à l'Académie des sciences morales et politiques, oui, en 1971. En revanche, pour l'Académie française, il faut attendre 1980 avec l'arrivée de Marguerite Yourcenar.
C'est ça.
Il faut attendre longtemps.
Oui, parce que l'Académie française était à l'époque assez marquée par une sorte de machisme, comme on dirait aujourd'hui. Les femmes n'ont rien à faire dans une académie. Et puis comment s'habillerait-elle, n'est-ce pas ? Elles vont dire comment ? Elles vont pas porter une épée quand même, vous voyez ? C'est un argument dont la valeur est discutable. Mais Madame Yourcenar, bien que non française, a été élue. Et puis ensuite, vous avez eu la secrétaire perpétuelle actuelle de l'Académie française.
Hélène Carrère-Dancausse.
Hélène Carrère-Dancausse a été élue également. Ce qui montre bien que l'Académie était maintenant ouverte, comme toutes les professions, aux femmes et qu'elle en comporte de fort talentueuses.
On revient à l'élection. On a ouvert les urnes. La personne qui s'est présentée est élue. C'est un nouvel académicien. Comment ça se passe lorsqu'il arrive pour la première fois à la petite salle ou la grande salle des séances ?
Eh bien, d'abord, ça ne se passe pas.
Ça
parce
se passe
que
pas.
Il ne suffit pas d'être élu, il faut être nommé par décret du président de la République. Donc, la personne qui a été élue est désignée au président de la République pour que sorte le décret. Mais tant que le décret n'est pas sorti, il n'est pas académicien. Et donc, il ne peut pas venir. Alors, quand il est élu académicien, là, il y a plusieurs solutions, selon les académies. À l'Académie des sciences morales et politiques, où on a gardé les usages d'ancien régime, des usages, enfin, pas d'ancien régime, puisqu'elle date de la Révolution, mais les usages libéraux, thermidoriens, etc., qui est un peu une confrérie, on rentre amené par le secrétaire perpétuel qui vous tient par le petit doigt. Et on vient jusqu'au bureau du président qui vous accueille d'un mot et vous remet une médaille qui est la médaille académique frappée à votre nom et qui sert de pièce d'identité si on en a besoin, mais qui termine le plus souvent dans une boîte pleine de dorures, etc., où elle achève sa vie, la médaille, car elle est l'orgueil de toute la famille.
Et pourquoi le petit doigt ?
Ben, c'est un vieil usage maçonnique qui a été réintroduit dans une académie où le nombre de maçons était assez important, un usage compagnonique, plus exactement que maçonnique. Un usage compagnonique ionique et cette académie qui était composée d'esprits forts, n'est-ce pas, puisque c'était les sciences morales et politiques. Bonaparte pouvait pas les sentir, il les a supprimés en disant ces idéologues. Eh bien, ces idéologues avaient des idées de leur temps et donc suivaient les usages compagnoniques, c'est-à-dire l'entrée par le petit doigt. À l'Académie française, on rentre comme ça, si je puis dire, mais en revanche, on a le discours public, car chaque académicien en costume doit prononcer un discours public dans la salle sous la coupole. Alors que dans la plupart des autres académies, si, les beaux-arts font de même, mais dans les autres académies, on est installé et on fait un discours, mais en civil, et dans la grande salle de l'académie et pas sous la coupole.
Et alors, est-ce que, parce que dans la petite salle des séances, il faut savoir, pour les auditeurs, hein, qui n'ont peut-être pas encore eu l'occasion d'entrer dans la petite salle des séances, il y a le portrait de Richelieu, et à côté, il y a un deuxième tableau qui est fermé, hein, on peut pas le voir comme ça, et les académiciens sont amenés à l'ouvrir quand ils entrent pour pouvoir voir ce qu'il y a derrière. Hein.
Et oui, alors, comme c'est le fondateur, dans cette salle où se réunit d'habitude l'Académie française, et l'Académie des sciences morales le lundi, vous et les académiciens travaillent sous les yeux du fondateur, le cardinal de Richelieu. Et puis à côté, dans l'espèce de placard, si je puis dire, bien fermé et que personne ne peut voir, sauf une fois quand on est élu, vous avez le portrait de Richelieu sur son lit de mort, dans lequel il est déjà... c'est le mort qui a cédé la place à l'agonisant. Et à mon avis, l'interprétation est simple. C'est un peu, elle est de Philippe de Champaigne, cette toile. C'est un peu ce qu'on disait autrefois mercredi des cendres. Mes mains tobo qui a pulvices est in pulverem reverteris. Ce qui veut dire en français, souviens-toi, ô homme, que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Donc derrière cette grandeur, symbolisée par le cardinal en capamania, on vous fait penser que la mort est là et que vous n'êtes que un passant pour un moment sur cette terre où vous aurez essayé d'apporter le maximum d'ouverture d'esprit et d'intelligence à vos contemporains.
Alors tout cela, ce sont pour les membres de l'Académie, mais il y a également des membres associés et des associés étrangers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots en quoi ça consiste ?
Dans le texte fondateur des Académies, sauf de la française, qui ne comprend que 40 membres, qui sont tous titulaires, il y a des membres étrangers, des personnes distinguées, qui ont la classe académique et qu'on inclut à part entière dans nos membres. Je citerai le cardinal Ratzinger, qui vient d'être élu pape sous le nom de Benoît XVI et qui est membre depuis 92 de l'Académie des sciences morales et politiques, à laquelle il a fait plusieurs communications de grand talent, notamment une communication sur l'Alliance, les Alliances, qui est à mon avis un chef-d'œuvre de théologie scripturaire et patrologique et de théologie tout court. Et puis alors, vous avez une deuxième catégorie qui est liée au passé. N'est-ce pas ? Pour pouvoir être académicien, il faut travailler à l'Académie et venir y travailler. Et pour ça, il faut être parisien, car autrefois, on ne pouvait pas circuler, il fallait des heures et des heures. Donc, les gens de province ne pouvaient pas être académiciens à part entière, parce qu'ils ne pouvaient pas venir toutes les fois. Donc, on les faisait correspondants de l'Académie. C'est-à-dire qu'ils envoyaient des documents, des textes, on les amenait à les lire parfois, on les lisait, etc. Alors, ces correspondants ont continué à exister, bien que l'argument ou le motif d'éloignement n'ait plus de sens, puisqu'aujourd'hui, avec le TGV et l'avion, on est partout, à tout moment. Or, la catégorie a subsisté et élit des personnes qui n'ont pas la vocation à être académicien à part entière, parce que leurs travaux ne sont pas toujours assez importants pour le justifier, mais qui sont des membres de l'Académie, associés à nos travaux, bénéficiant de nos séances et de nos réunions, et apportant leurs œuvres qui nous intéressent beaucoup, et notamment dans les sujets que nous traitons de manière collective.
Merci André Damien, on se retrouve très vite pour le dernier volet de cette série d'émissions consacrée à l'histoire de l'Institut de France. À très vite.